Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 393. 393, et c'est le début de l'année. Et comme chaque année, on a la chance, quasiment depuis le début, d'avoir une personne qui est proche de la FEN, qu'on aime beaucoup, et qui nous permet de démarrer l'année dans de bonnes conditions, Alain Frédéric Fernandez. Bonjour Alf.
Bonjour, oui bonjour, comment ça va?
Très très bien, en pleine forme. Alors pourquoi est-ce qu'on t'a fait venir? Bah, outre le plaisir de t'entendre, ce qui est déjà en soi, c'est parce que tu as une actualité et que tu as sorti un livre que chacun peut télécharger gratuitement. Le lien sera donné dans les notes de l'émission. Un livre qui s'appelle Vivre heureux en 2035 et travailler efficacement.
Oui,
50
vivre et
pistes.
travailler, vivre heureux et travailler efficacement, effectivement.
Exactement. Alors première question, pourquoi parler de 2035 et pas de suite pour être heureux?
Eh bien, je parle de 2035, mais je dis que entre aujourd'hui et 2035, il faut se préparer.
D'accord.
Hein? C'est-à-dire que si j'attends 2035 pour publier le livre, ce sera trop tard. Voilà, donc je me situe en 2035, je dis voilà comment se passe la vie tous les jours, dans le travail, partout. Simplement, il faut s'y préparer dès maintenant. Ça, c'est le point clé. Et il y a un rôle colossal des responsables de formation, entre autres, parce que le budget formation, là, il va exploser nécessairement, et il sera descendant, complètement descendant, parce qu'il va falloir imposer des formations aux chefs d'entreprise, aux salariés, parce qu'ils ne savent pas du tout de quoi est fait 2035. Donc,
Donc
on
ça
se
veut dire
prépare vite.
effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet de faire de la stratégie. C'est-à-dire que ça leur permet aux responsables de formation d'éviter de faire comme d'hab, d'anticiper, de choisir un peu un chemin. Comment tu as construit ton livre? Comment ça se lit ton bouquin?
Ah ben, ça se lit au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un sommaire,
D'accord.
il y a un sommaire avec 50 sujets, 50 pistes, et ben, s'il y en a une qui t'intéresse, tu les lis tout de suite. Tu vois un petit peu si ça rentre dans l'intérêt de ton entreprise. Il y a des choses qui sont directement intéressantes pour l'entreprise, d'autres qui sont beaucoup plus sociétales. Mais dans tous les cas, ça se lit n'importe comment. On peut l'ouvrir à tout moment pour chercher une idée ou pour répondre à une question qu'on se pose. Par exemple, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir une imprimante 3D? Est-ce que moi, dans mon boulot, j'ai besoin d'une imprimante 3D? Et là, j'explique dans quel cas on en a besoin.
Alors, dans quel cas on a besoin d'une imprimante 3D?
Alors, on a besoin d'une imprimante 3D chaque fois que on veut être totalement indépendant et ne pas dépendre de quelqu'un. Par exemple, pour des pièces détachées, tu es dans ton quartier, il y a ce qu'on appelle un Fab Lab. C'est-à-dire des jeunes qui tiennent une petite boutique et tu leur demandes une pièce détachée qui n'existe plus parce que ton aspirateur ou ton frigo est tombé en panne et ils te font tout de suite la pièce détachée parce que leur scanner permet de la reproduire et ils la font tout de suite dans n'importe quel matériau. Et je répète, tous les matériaux sont possibles. Je ne sais pas si tu vois la passerelle en face du Quai d'Orsay.
Oui, absolument, qui a fait
La
parler
passerelle,
d'elle.
elle fait 150 mètres, mais elle était réalisée en 3D.
D'accord.
C'est une imprimante qui a fabriqué cette passerelle en béton. Et pire que ça, j'habite Vernon, début de l'heure. Eh bien, à Vernon, on fabrique la plus haute technologie qui existe au monde, c'est le moteur de la fusée Ariane. Eh bien,
D'accord.
le moteur de la fusée Ariane est conçu uniquement avec des pièces qui ont été fabriquées en 3D. Il n'y a pas une seule pièce autre que le 3D. Et donc le travail de l'entreprise à Vernon, c'est juste de monter, de reconstituer. Mais il n'y a pas de problème, il manque une pièce, allez, on la fabrique. Et à l'avenir même, on demandera, ça c'est ce que m'ont dit les gens d'Ariane, c'est que on demandera aux gens qui habitent la région de fabriquer eux-mêmes des pièces pour éviter d'avoir des délais d'attente en leur disant, ben voilà, j'ai besoin de telle pièce, voilà le fichier STL. Ils regardent avec leur fichier, ils n'ont rien à faire. Ils donnent ça à manger à leur imprimante et l'imprimante leur fabrique la pièce qu'ils vont vendre ensuite à Ariane Espace.
Ah ouais. Et donc ça fait un circuit court, donc c'est éco-responsable, etc. Ouais.
Exactement. Et alors c'est une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité.
Et ce qui est génial, c'est que là, c'est pour de l'industrie, donc c'est pour des matériaux, mais ça peut être aussi pour des choses plus utilitaires. On peut penser, par exemple, j'avais vu le fait de créer des pizzas, donc des imprimantes à pizza. Donc on
Oui,
dit quel type de pizza. Et donc,
ça existe déjà.
oui, exactement.
Et j'en ai une dans mon quartier.
Ah, très bien.
Donc voilà, et elles sont délicieuses, c'est très 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 bonne pizza. Et donc, si on parle de choses plus personnelles, les magasins ne vont plus avoir besoin d'avoir de stock. C'est-à-dire qu'elles auront des écrans sur lesquels elles montreront des produits. Il y aura une décoration, bien sûr, qui rappellera les produits pour qu'il y ait une certaine ambiance. Mais je n'achèterai pas le produit, j'achèterai le fichier. Et je le fabriquerai moi-même dans mon garage. Sans rien faire, je mettrai le fichier et mon ordinateur fera fabriquer le fichier, peut-être même personnalisé grâce à mon imprimante 3D.
Ou
Donc ça veut
simplement
dire quoi?
des cartouches.
Voilà, ça veut dire qu'en 2025, il faut absolument que tous les enfants se préparent à savoir se servir d'une imprimante 3D. J'ai une fille qui est dans un lycée. Effectivement, il y a un atelier 3D déjà qui a démarré. Et donc, tout le monde devrait, parce que dans quelques années, tout le monde aura une ou plusieurs imprimantes 3D dans son garage, dans son bureau, etc., etc. Ça va être un des appareils les plus utilitaires, avec le frigo, avec le téléviseur, etc., etc.
Exactement. Donc, très très belle piste. Donc, il en reste 49.
Il en reste
Une,
49.
voilà. Donc, ça c'est bien. Une qui était, qui est souvent utilisée et qu'on évoque souvent, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que finalement, c'est une piste qui aura un avenir fort pour
Oh
toi?
ben l'avenir numéro un, c'est
Oui.
l'intelligence artificielle. Avec une remarque, c'est que ça va peut-être même, en quelque sorte, comment est-ce qu'on dit, un effet domino, ça va peut-être éliminer les diplômes. Ça va
Oui.
éliminer les formations trop sophistiquées. Pourquoi? Parce que, et c'est toi qui me le disais aussi, la partie technique d'un métier, on peut l'apprendre, mais elle est vite obsolète. Donc l'intelligence artificielle nous maintiendra chaque jour exactement au top en matière de contenu. Et la partie connaissance représentera moins de 10% de l'ensemble. Tout le reste, ce sera ce que tu appelles, toi, des soft skills, qui sont plutôt des relations avec les autres. Mais l'intelligence artificielle me permettra de maîtriser toute la partie technique. Et alors, j'ai un chapitre particulier à l'intérieur de cette
Alors,
première.
juste en complément pour que les gens aient ce tips, c'est exactement ce que Laurent Alexandre et Olivier Babeau de l'Institut Sapiens ont écrit un ouvrage qui est sorti il y a de ça un mois peut-être un mois, à peine un mois et demi. C'était Arrêtez de faire des études.
Oui.
Vous perdez 5 années pour rien, vous
Oui,
apprenez des
oui.
choses qui ne servent à rien, et donc après, autant apprendre directement des choses qui sont utiles.
Exact. Alors, ça me permet de rebondir sur un point important. Ceux qui vont être le plus impactés de façon positive par l'intelligence artificielle, c'est ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que
C'est-à-dire,
les cols
oui.
bleus vont l'emporter sur les cols blancs. Parce que les cols blancs, on peut les remplacer tous les jours. Et tous les jours, je pourrais passer de tel métier à tel métier. Je sais que la partie technique, je l'aurai avec l'intelligence artificielle. Alors que réparer un joint dans un lavabo ou un évier, réparer un frigo et tout, il faudra bien qu'il y ait des gens qui sachent se servir de leurs mains, de tournevis, d'autres appareils. Et donc les cols bleus vont être favorisés. Ceux qui ont un métier très manuel et très pointu vont être favorisés par l'intelligence artificielle, puisqu'ils n'en auront pas besoin.
Même si on voit aujourd'hui que les robots, Amazon par exemple sur les chaînes d'approvisionnement, utilisent des robots qui sont pratiques, plus efficaces 24 heures sur 24.
Oui.
Et donc ça réinterroge quand on marie l'intelligence artificielle, les LLM et les robots, ben, on a un corps et un esprit.
Alors, ce sera une étape d'après. Dans
Oui,
l'étape
absolument.
d'après, il y a les micro-robots, bien sûr, qui sont capables de tout faire. Et d'ailleurs, j'ai même lu que un professeur français, un cardiologue, a opéré à 10 000 km. C'est-à-dire qu'il a opéré à cœur ouvert à 10 000 km et c'est un robot qui faisait exactement les gestes dont il avait besoin. Donc ça peut aller très très loin
Exactement.
Mais on ne peut pas
Et donc,
investir dans ce
ça
matériel.
donne une dextérité. Alors aujourd'hui,
Voilà.
c'est un peu prospectif, mais quand on voit, alors évidemment, c'est un peu bête comme idée, mais le robot fait la vaisselle. Quand on voit, en fait, c'est une machine. Et la vaisselle, quand on a un verre et qu'on est un peu avec des gros doigts, ben, au début, ça cassait tout, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de souplesse pour bien sentir les verres fragiles. Pareil pour les massages. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dextérité et des degrés de liberté sur les bras qui sont rares et qui vont permettre d'avoir dans chaque foyer, et c'est l'idée d'Elon Musk, le fait de dire chacun, on aura un robot. Aujourd'hui, ça coûte 20 000 euros le robot, mais avec l'industrialisation, ça sera quasiment gratuit. Et donc,
Tout à
on
fait.
aura un serviteur numérique qui nous
Tout
aidera.
à fait. Donc, alors, je te rappelle que je me situe en 2035.
Et
Donc,
donc,
en
c'est déjà fait.
2035, on aura fait une partie du chemin, mais pas complet. On ne serait pas encore arrivé à l'étape que tu décris. Mais tout de même, on est presque prêt. Alors, justement, ça me donne l'occasion de dire que le livre que je propose n'est pas un livre de science-fiction,
Oui, très bien.
puisque tous les sujets traités existent déjà. Ils ont fait l'objet d'études, de publications. Et donc, voilà, ça existe déjà. Il y a pas besoin de. On n'est pas obligé de croire à quelque chose. On peut juste constater que ça existe et que les gens attendent, ceux qui l'ont inventé, attendent juste qu'il y ait un modèle économique qui leur permette de lancer le produit.
Ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est qu'en fait, tu fais de la futurologie. En disant en 2035, ça donnera quoi? Donc, après, ça permet de prendre position. Et surtout, les gens disent, je suis pas d'accord, je suis d'accord, on s'en fiche. Mais simplement, ça permet de rebondir sur ce que tu dis. Et c'est rare des gens qui se projettent aussi loin. Donc, ça vaut la peine, quitte sur un point ou deux, à dire, moi, ce n'est pas mon idée. Mais en tout cas, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui a écrit, qui a cartographié le domaine des possibles pour ensuite pouvoir travailler. Donc, ça, c'est rare. Et je trouve que c'est pour ça qu'avec la FEN, on en fait la promotion. Et donc, on a lancé sur la newsletter de la FEN le fait qu'on puisse télécharger gratuitement. Pour ceux qui ne le feraient pas
Et je
sur les
vous en
notes.
remercie complètement. Ça permettra un plus grand nombre de gens. Alors, c'est un livre qui est libre de droit. C'est-à-dire qu'on peut en faire toutes les copies qu'on veut et les offrir à toutes les personnes qu'on souhaite. Voilà. Ce qui
Ah
est
voilà,
important, c'est qu'il soit surtout diffusé.
donc ça c'est bien, on peut faire des cadeaux qui sont gratuits et qui sont bien. Voilà.
Et voilà.
Très bien. Alors, sur quelles sont les grosses tendances dans la formation? Est-ce qu'on aura encore besoin de formation?
Alors, ma réponse serait non.
D'accord.
Sur la partie technique.
Ah, très bien.
En revanche, on a absolument besoin de démarrer aujourd'hui une très très grosse opération sur les 10 principales soft skills, c'est-à-dire ces techniques qui ont été un petit peu modélisées par l'école de Palo Alto. Les gens connaissent la vallée de Palo Alto parce qu'il y a toutes les grandes entreprises qui sont créées là. Mais elles ne sont pas créées là par hasard, elles sont créées là parce qu'il y a l'école de Palo Alto qui leur a offert justement toute cette futurologie et toutes ces études. Et donc, les 10 soft skills, ce sont 10 compétences transverses qui permettent de vivre avec les autres et d'exploiter au mieux toute la technologie qui va arriver. C'est-à-dire que si je sais me servir d'une imprimante 3D, d'un drone, de tout ce que tu veux, si je ne sais pas comment inciter les autres à accepter ma proposition, ben ça ne sert à rien. Donc là, il y a une dizaine de soft skills. Les deux plus importantes, on va dire, c'est d'abord la vision systémique, un peu le jeu de Mikado. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ça aura de toute façon un impact quelque part. Ça, il faut absolument se le mettre dans le crâne pour toutes les actions que mène mon entreprise. Et la deuxième, c'est l'intelligence sociale. Ça ne veut pas dire être capable de bien parler ou être capable de maîtriser l'expression orale. C'est obtenir de quelqu'un quelque chose qu'on veut obtenir de lui. Une personne, un groupe, un peuple, pourquoi pas, un gang. Donc l'intelligence sociale, c'est ça. Ça va plus loin. Et il y en a une dizaine, dont la possibilité de travailler en groupe, mais en étant éloigné physiquement les uns des autres, on ne se rencontre jamais parce qu'on est à 10 000 km les uns des autres et il faut quand même être capable de mener un projet malgré les distances.
Alors justement, là, tu as complètement raison dans le fait que le gros problème du numérique, c'est qu'on se retrouve seul avec la machine. Donc, c'est un émiettement social, comme disait George Friedman. Et justement, l'homme a besoin de se rapprocher des autres. Et donc, c'est là où justement, il faut retravailler cette compétence pour justement avoir à nouveau des amis, rencontrer des gens, quitte à avoir des ennemis, des gens qu'on n'aime pas, mais qu'on
Oui.
refasse social, parce que l'homme est un animal social.
Ah oui. Il y a même une des 10 soft skills qui est la connaissance des. Et ça va entrer dans la formation, ce sera très important. La connaissance des habitudes communautaires. C'est-à-dire que
C'est-à-dire.
dans une entreprise, il peut y avoir 10, 15, 20 nationalités ou cultures totalement différentes. Il faudrait être capable de gérer ces cultures. Ça existe déjà. Par exemple, sur une plateforme pétrolière en pleine mer, l'ingénieur n'a pas besoin d'être un ingénieur. C'est d'abord quelqu'un qui sait faire travailler une cinquantaine de nationalités ensemble, en tenant compte des cultures de chacun. Ça, c'est un point important.
Mais aujourd'hui, ces soft skills, la difficulté, c'est elles sont pas bien calibrées. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui peuvent. Il n'y a pas de référentiel qui soit pour les entreprises. Alors, on invoque des choses comme l'intelligence sociale, comme l'intelligence émotionnelle, qui
Oui.
sont fondées, hein, qui ont des choses intéressantes. Mais finalement, chez chaque entreprise, finalement, a sa propre philosophie dessus.
Oui, alors si on va sur Internet, on s'aperçoit qu'on peut référencer une centaine de soft skills. Parce que tout le monde pense que le fait de se sentir bien dans sa peau, c'est une soft skills. Pas du tout. Les soft skills, il y a un référentiel, il y a 10 soft skills qui sont garantis par Palo Alto et qui les décrit complètement. Donc on peut trouver jusqu'à 10 000 pages de documentation à Palo Alto, à condition de parler anglais, mais on n'a pas besoin, puisque de toute façon la machine traduira automatiquement. Et voilà, donc ces soft skills, c'est quelque chose de très 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 normé. On ne peut pas mettre le nom de soft skills à tout. Et là, il y a un travail énorme pour les responsables de formation pour ne pas se faire avoir par des offres alléchantes qui n'ont strictement rien à voir avec des soft skills et qui ne traitent que du plaisir de se former, quoi. Le plaisir est terminé en formation. C'est pour ça qu'on a intérêt à avoir des pédagogies plaisantes. Et là, c'est la psycho-pédagogie, la neuro-pédagogie, dont tu connais très très bien. Mais la formation, on devra accepter ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Il n'y a plus de catalogue. La formation sera totalement descendante.
Est-ce que ce n'est pas le rôle du responsable de formation de se dire je sais ce qu'il faut,
Oui.
ce qu'il faut pour les apprenants? Ben finalement, c'est d'érotiser la formation, c'est-à-dire donner envie, hein, donc stimuler pour que les gens aient envie et adhèrent à ce que je crois être juste.
Et c'est pour ça que la première soft skill pour le responsable de formation, c'est l'intelligence sociale. Il faut
Ah
qu'il
oui.
arrive à convaincre chacun des membres de l'entreprise qu'il a absolument besoin de se préparer. Je prends un exemple. Si je suis dans l'immobilier, eh bien, tous mes agents immobiliers devront savoir se servir d'un drone
Oui, pourquoi?
pour faire visiter le quartier.
Oui, bien sûr.
Alors, vous êtes là, mais je vais vous montrer où est l'école. Allez, on y va. Je vais vous montrer le parc qui est à côté. Et puis, ils devront se servir aussi, connaître la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour faire des visites d'appartements à 360 degrés, pièce par pièce, etc., etc. Donc, il va falloir convaincre, et c'est l'objet de mon prochain livre, où j'ai référencé 325 métiers, où pour chaque métier, on voit quelles sont les technologies dont on a le plus besoin. Mais il n'y a pas que des technologies, il y a un élément essentiel dans les prochaines années, ça va être la note sociale.
Oui. Alors c'est quoi?
Alors, la note sociale, c'était créé par les Chinois. À Pékin, tout le monde a une note sociale. Plus ou moins,
Donc, une dictature.
alors ça s'appelle un crédit social.
Très bien.
Ça permet à quelqu'un qui fait des bêtises d'être interdit à certains endroits, parce qu'on le reconnaît. L'argent a totalement disparu, les cartes bleues ont disparu, on paye même plus par phone, on paye avec son visage. Donc, je vais devant un distributeur de boissons. Je me prends trois coca ou deux autres sodas, je montre mon visage et c'est facturé. Et ça existe déjà aux États-Unis. Je ne peux rentrer dans l'hypermarché que si mon compte en banque me le permet.
Ah oui.
Et je
Mais
ne
est-ce que
pèse pas un
c'est
sorbet.
pas un peu Big Brother?
Alors, c'est ce que je pensais,
Oui.
et c'est le thème de mon livre et des suivants, c'est qu'on va abandonner de la liberté au profit de la sécurité. Et je prends un exemple. En France, j'ai recensé 42 fichiers qui en disent plus que la note sociale inventée par les Chinois. C'est-à-dire que si aujourd'hui une instance est autorisée, et je pense qu'il y en a quelques-unes qui le sont déjà, si une instance est autorisée à croiser tous les fichiers, on sait dans quelle école je suis allé, quel diplôme j'ai obtenu, mon parcours professionnel, éventuellement les notes que j'ai eues, les sanctions que j'ai reçues, comment je me conduis sur la route, comment je tiens mon compte en banque, etc., etc. Il y en a 42 comme ça. Donc aujourd'hui, la note sociale, ça n'est pas une crainte qu'on doit avoir. Elle existe déjà, on a juste à être bon dans cette note sociale pour en profiter au maximum et avoir un maximum de sécurité. Parce que ce qui est valable pour moi est valable pour les autres, plus personne n'est anonyme. Quand je me promène dans la rue, il y a une caméra qui me dit
Oui,
que la personne à côté de moi est peut-être dangereuse, j'ai intérêt à reculer de 10 mètres.
Mais alors, pour l'instant, effectivement, avec l'IA Act, c'est compliqué parce que l'Europe ne l'autorise pas. Mais c'est vrai que quand on se projette, effectivement, à un moment, la question se pose. Ça veut dire que c'est la fin de l'intimité?
Totalement. Totalement, les 8 milliards d'habitants seront tous connus. C'est-à-dire que le gars qui habite au fin fond de l'Amazonie, dans une petite tribu isolée, on saura son nom, on sait qui il est, et on pourra le retrouver. C'est-à-dire, plus aucun être humain ne sera anonyme. Et ça va aller très, très, très vite.
Et c'est vrai que cette notion d'intimité avec le numérique, on voit qu'avec les jeunes générations, eux, ça leur pose aucun problème en se disant, il n'y a rien de grave, on met ça en ligne, on s'en fiche. Mais c'est vrai que les anciens, parce que c'est le je pense, donc je suis, donc c'est aussi la chrétienté avec Saint Augustin, la notion d'intimité fonde même notre civilisation.
Alors, je vais te donner juste un exemple qui montre que ce crédit social existe déjà. Tu sais qu'il est interdit d'avoir un fichier qui comporte le numéro de la carte de sécurité sociale. C'est
D'accord.
interdit. Ça m'a été confirmé par tous ceux qui sont responsables de la RGPD, etc., c'est-à-dire les lois européennes sur la protection de l'intimité, etc. Mais si tu ouvres un compte à la Caisse des dépôts et consignations simplement pour ton CPF, on te demande, et ton numéro commence par ton numéro de sécurité sociale. Donc il y a des organismes qui ont déjà des utilisations, et j'ai déjà vu des fichiers ethniques, c'est-à-dire des fichiers statistiques portant sur les ethnies, et qui avaient été publiés dans un cercle un petit peu restreint, mais tout de même, qui ont déjà été publiés. C'est-à-dire que on va, je répète, abandonner une grande partie de notre liberté pour avoir une grande part de sécurité. Quand on était 1 million d'habitants sur Terre, c'était facile. On était protégés par les distances et autres. Là, on est 8 milliards et on est tous en compétition. Et comme on a besoin de vivre en sécurité, eh bien on acceptera un autre monde qui sera un monde où justement la sécurité sera plus importante que la liberté.
Est-ce que tu dirais que c'est la sécurité ou la sécurité et le plaisir? Quand on voit par exemple la RGPD, ça se traduit concrètement par le fait que quand je vais sur un site, on me demande toujours si j'accepte les cookies, etc. C'est pénible, surtout quand on scrolle les sites. Les jeunes disent on s'en fout, quoi, je veux dire. Voilà, vous
Mais
prenez mes données, etc.
alors ce sont des algorithmes en fait qui font vivre les
Oui, mais
sites.
ça veut dire que les gens, ils veulent de l'ergonomie, qu'on m'identifie facilement, qu'il y ait de la fluidité dans la relation. Et qu'ils sont prêts à payer ça pour le plaisir de que les choses soient simples, plutôt que de se disant il y a des risques, mais pas tant que ça, quoi.
Oui,
Est-ce qu'il n'y a pas
absolument.
un peu le plaisir, hein, c'est ça?
Il y a le plaisir et c'est pour ça que j'ai recensé 42 fichiers, mais il y a aussi toutes les informations que je donne sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres. Donc aujourd'hui, on peut savoir tout ce qu'une personne fait et qui elle fréquente et comment elle est, etc., sans avoir besoin de mettre en place quoi que ce soit. La prochaine étape, c'est simplement la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que la monnaie va disparaître, ça c'est clair, hein, les billets de banque et les pièces de monnaie vont disparaître, Et donc, on reconnaîtra les gens et ils pourront payer, ils pourront exister, avoir le droit d'aller dans certains endroits ou non, uniquement à cause de leur image.
Exactement. Donc,
Quand
et
on...
ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, toi?
Non, pas du tout. Si on est prêt, si on est prêt. Alors, si on n'est pas prêt, c'est hyper inquiétant.
Bien sûr.
Imaginons que les gens ne lisent pas mon livre
Très bien. Ah oui, ça, c'est inquiétant.
avant 2035. Ils vont découvrir tout ça à leurs dépens. Or, je pense que 10 ans, c'est quand même un délai suffisant pour se préparer à cette échéance. Par
Bien sûr.
exemple, je disais tout à l'heure que la monnaie, le liquide va disparaître. Et est-ce que tu sais pourquoi il va disparaître, le liquide? Quelle va être la raison principale? En dehors du fait qu'il favorise le narcotrafic,
Bien
qu'il
sûr.
favorise le travail au noir, qu'il favorise les hold-up, j'imagine quelqu'un qui va rentrer dans un magasin, il ne pourra pas dire avec son arme, faites-moi une carte bleue de 3 000 euros à tel nom, sur tel compte, quoi. Donc, pourquoi est-ce que, quel va être le prétexte qui va très rapidement supprimer l'argent liquide?
Je sais pas.
Eh bien, ce sont les épidémies.
D'accord, je n'aurais pas trouvé.
Alors, ce sont les
C'est-à-dire.
épidémies, par exemple, on a
Oui,
eu la...
quand on passe d'une pièce à l'autre avec
Eh oui!
on les touche. Ah oui.
Quand on est à la COVID-19, il fallait tousser dans son coude, porter un masque, plus de bisous, plus de serrage de main, etc. Mais on prenait des billets et des pièces qui, elles, n'étaient jamais désinfectées. Donc, je suis convaincu que le principal tueur dans la COVID-19, c'est l'argent liquide.
Et alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un en entreprise, un responsable de formation, qui lit ton livre, qui voit des pistes qui l'intéressent, comment est-ce qu'il fait pour préparer les gens?
Bah, on a une équipe qui est assez grande et qui peut à tout moment soit simplement organiser une petite réunion pour convaincre son comité de direction, soit l'aider dans la préparation de l'accompagnement dans tel métier, de quels outils vous aurez besoin, qu'est-ce que vous utiliserez, quel matériel il faut favoriser, quelles sont les formes de pédagogie qu'il va falloir utiliser. Et puis surtout développer les soft skills. Hein, je reviens toujours à ces soft
Bien
skills.
sûr.
Ces 10 soft skills qui sont totalement. Tiens, il y en a une que je n'ai pas citée dans les soft skills, c'est la gestion de la charge cognitive.
Oui, très importante.
C'est-à-dire que je n'aurai plus besoin de savoir, je vais me décerveler complètement, parce que si j'essaye de retenir, je serai obsolète à chaque fois. J'ai la mémoire de ce que j'ai appris hier, mais ça n'est plus valable. Donc, il vaut mieux que je sache où est l'information qui est à jour aujourd'hui.
C'est le projet d'Elon Musk de Neuralink,
Et voilà.
hein, qui
Donc, ça
consiste à
existe.
ce... Exactement. Complètement aujourd'hui. Il y a des tests qui sont... Alors, pour l'instant, ça fonctionne, c'est toujours la même mécanique, hein. C'est pour sauver les gens qui sont en situation de maladie. Comme ça, ils peuvent avoir accès à un ordinateur, ils peuvent communiquer avec un ordinateur. Mais l'idée bien d'Elon Musk, c'est dire que c'est l'ordinateur pourra communiquer avec l'être humain. Et donc, quand moi, j'aurai besoin d'une information, bah, je lui demande, il me la redonne.
Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence. Par exemple, je ne me
Exactement.
sers plus jamais de mon cadran téléphonique. Je demande à Siri d'appeler. Siri appelle ma fille, Siri appelle, etc. Et quand j'ai besoin d'une information, Siri peut me la donner aussi. Il suffit de la lui demander poliment, même si c'est une machine.
Bien sûr.
Je m'attache à être poli et à remercier à la fin. Mais avec quelques mots, elle va me trouver des informations que j'aurais mis des heures et des heures à rechercher que j'aurais peut-être pas trouvé. Donc c'est la gestion
Absolument.
de la charge cognitive, c'est un point important.
Et aujourd'hui, avec les deep search, les systèmes de recherche approfondie, n'importe quel LLM est capable de le faire. Et donc, moi, effectivement, ça libère ma charge mentale. Et donc, ça me permet d'être moins. Il y a moins de pression. Et donc, tous les gens qui sont burn-out, par exemple, sont des gens qui ont trop de pression en eux. Et donc, en externalisant, ça leur permet de régler un problème. Mais finalement, si c'est la machine qui maîtrise tout, finalement, est-ce que moi, je ne deviens pas un robot à la fin?
Alors, on n'acceptera jamais que la machine décide. C'est-à-dire que le diagnostic sera réalisé par la machine, mais il devrait être validé par un être humain. Et
D'accord.
ce sera valable dans tous les métiers. Donc, effectivement, le diagnostic va être beaucoup plus facile parce que la machine est capable de me sortir des bases de données sur 1 milliard de cas, alors que moi, j'en ai une vingtaine en mémoire dans la tête. La machine va me donner un diagnostic, mais moi, je vais vérifier. Si la personne est en état de suivre l'examen que je veux faire, si elle est en état de suivre le régime que je vais lui demander. Ça, j'ai besoin d'un professionnel. Mais le diagnostic sera peut-être interdit. Le diagnostic humain sera peut-être interdit. Il faudra un diagnostic machine et une validation humaine.
Et ce qui est génial, c'est que la machine, connaissant l'homme, parce qu'elle a son historique, et donc elle saura présenter en shortlist les choses qui vont l'intéresser davantage dans sa façon de penser à chacun. Autrement dit, on a des ouvriers numériques qui travaillent pour nous.
Absolument. J'ai fait un test, pardon, fin de semaine dernière. Mon beau-frère s'intéresse beaucoup aux corbières rouges. Et on a fait un test avec Copilote. Il a demandé à Copilote de lui parler des corbières rouges. Il lui a sorti un document d'une dizaine de pages dont lui ne connaissait qu'une grande partie, mais pas tout. Donc il a découvert des choses en posant une question sur les corbières rouges, et il a découvert des choses excellentes dont il va pouvoir parler dans sa cave.
Exactement. Et derrière, comme c'est un agent conversationnel, il va pouvoir avoir quelqu'un qui peut discuter avec lui de son niveau ou l'augmenter. Et donc petit à petit, il va capitaliser des connaissances
Ouais.
grâce à l'IA, grâce au smartphone, tout simplement.
Donc c'est formidable. On va vers 2035, qui va être une vie extraordinaire, sauf que il va falloir accepter, je répète encore une fois, de renoncer à sa liberté, car la liberté ne peut pas être la même quand on est 8 milliards et qu'on est en compétition et qu'il y a des conflits un peu partout. Je parlais du commerce mondial en disant qu'il allait bientôt disparaître. On n'aura plus besoin de commerce mondial puisque tout le monde sera capable de fabriquer n'importe quoi dans son pays avec des imprimantes 3D. Là, par exemple, on dépend de certains médicaments fabriqués à l'étranger. On pourra très bien, avec une imprimante 3D, tout à coup, fabriquer les médicaments dont on a besoin. Donc le commerce mondial va disparaître pour cette raison, mais aussi parce que, et le monde sera de plus en plus dangereux, il y aura des pirates et il y a des guerres entre les peuples. On le voit aujourd'hui, les détroits commerciaux, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient d'Asie du Sud-Est, deviennent de plus en plus dangereux. Il faut parce qu'il y a des conflits un petit peu partout.
C'est aussi pour la planète, parce que tous ces transports-là, bon, sont générateurs de gaz à effet de serre. Et donc finalement, si on veut décarboner la planète, ben, si on
Et
produit à...
il y a 300 millions de containers.
Oui, donc c'est énorme.
300 millions de containers. Comme, et tu le sais, on peut transformer chaque container en un petit appartement. On a de quoi fabriquer 300 millions d'appartements, sans aucune fondation, sans rien, juste en aménageant l'intérieur.
Ça laisse une marge à tous ceux qui n'en ont pas.
C'est
Donc,
dingue, hein?
mais ça ouvre des perspectives complètement nouvelles. Ça ouvre d'ailleurs, mais ce qu'on ne va pas aborder parce qu'on arrive à la fin de l'émission, les villes intelligentes. C'est une fois qu'on a tous ces containers, par exemple, comment est-ce qu'on les relie les uns aux autres, comment sont réorganisés. Et donc, ça donne énormément de choses intéressantes. Les entreprises dites intelligentes, on les disait apprenantes avant, maintenant elles vont devenir intelligentes, c'est-à-dire avec des savoirs qui vont pouvoir circuler différemment. Si le responsable de formation veut démarrer aujourd'hui, en janvier, dans ces cas-là, puisque c'est la période des vœux, il achète le livre, on est d'accord. Mais après, comment il le met en œuvre dans.
Comment il achète le livre?
Pardon, il
Il est
télécharge le
gratuit,
livre
le livre.
gratuitement. Ah oui, absolument.
En
J'ai trop l'habitude
plus.
des gens. Voilà, c'est un biais cognitif. Voilà.
En plus. Mais alors, tu sais, je vais te dire, il faut quand même gagner sa vie. Donc, je n'ai pas fait ce livre uniquement pour me faire connaître. Je crois que depuis 30 ans, j'ai assez couru un peu toutes les scènes. Donc, je n'ai pas besoin de publicité. En revanche, effectivement, quand quelqu'un, un responsable formation, aura lu mon livre, eh bien, il pourra très bien me demander de lui donner des conseils. Et là, j'ai toute une équipe, une bonne dizaine de personnes, capables de lui donner tous ces conseils. Voilà. Ça, c'est mon modèle
Alors,
économique.
si justement, s'ils veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font?
Eh bien, tout est dans le film.
Ah, très bien.
Bah,
Donc,
dans
il
le film,
faut...
pardon, dans le livre.
Dans un livre qu'on télécharge gratuitement, bien sûr, comme tout le monde le sait, parce qu'on l'a répété plusieurs fois.
Bien
Voilà.
sûr.
Voilà. Et donc, c'est très bien. Tu es plus LinkedIn, tu réponds plus sur quoi? Sur le...
Alors LinkedIn, oui, puisque j'ai pratiquement 18 000 contacts sur LinkedIn, donc ça va très très vite. Et mes contacts sont majoritairement des DRH et des responsables de formation. Donc
Très bien.
en tant qu'ancien responsable de formation, et c'est à l'époque où on s'est connus, il y a plus de 20 ans maintenant, hein, ça passe vite, En tant qu'ancien responsable de formation, je pensais faire le plus beau métier du monde. Alors maintenant, ça va être non seulement le plus beau métier du monde, mais le plus utile dans l'entreprise.
Donc, c'est formidable.
Ben
Donc,
voilà.
ça sent la promotion sociale, ça.
Donc je dis, voilà, donc je dis, responsable de formation, votre heure est arrivée.
Bravo. On ne pourra pas dire mieux pour démarrer l'année. Merci beaucoup, Alf. C'était un bonheur de pouvoir échanger avec toi. Merci à tous. N'hésitez pas à envoyer des messages et donner vos commentaires si vous le désirez. Merci beaucoup. Bye bye.